fertiles et modestes, pauvres aussi pour la plupart, avides en tout cas du réel magique, comme disait Sandra. Ils avaient tous à cœur, ces artistes, de se rester fidèles, attentifs au sort des uns et des autres, quelles que soient les jongleries avec la critique, la censure, l'argent ou la réclame. Où était alors la réalité? Où était la fantasmagorie? Par privilège, Blaise Sandrard lève pour nous un coin du voile sur le destin si singulier du bon maître d'Arcueil, allant et venant de son taudis misérable aux élégants salons de la capitale, de l'autre côté du bois, avec des enregistrements de Jacques Bathory, Pierre Bernac, Agnès Capri, Georges Auric, Francis Poulenc et Léopold Stokowski.
Les Affinités électives sont une émission de Georges Baume, réalisée avec la collaboration de Raymond Fall. Blaise Sandrard a choisi de présenter Éric Satie.
Me permettrez-vous, Blaise Sandrard, en m'excusant d'être aussi banal, de vous demander tout d'abord comment avez-vous connu Éric Satie?
J'ai connu Éric Satie en 1916 chez la veuve d'un ami qui venait d'être tué à Verdun le premier jour de l'offensive, laquelle jeune femme recevait tous les vendredis matin une bourriche de poissons de Marseille, dont elle était originaire. Et le vendredi soir, on mangeait la bouillabaisse avec Satie, qui présidait, un jeune musicien qui s'appelait Georges Auric, et que j'avais pris tout simplement pour un jeune pianiste à l'époque. Il s'est dévoilé compositeur par la suite. C'était un garçon qui lisait beaucoup, qui avait toujours une serviette bourrée de bouquins, de toutes espèces de bouquins. Et c'est là, chez cet ami, que nous passions régulièrement, le vendredi soir, à bavarder à bâton rompu.
C'est comme compositeur de mélodie qu'Éric Satie se fit tout d'abord connaître, n'est-ce pas?
Oui, mais Éric Satie était avant tout un bon convive à table, qui adorait la bouillabaisse, qui racontait des tas de blagues avec son esprit à lui, qui était tout à fait particulier. Parlait un peu comme un perroquet, par moment. Toujours la main sur la bouche ou se tirant le nez, ou jouant avec son pince-nez. Et il nous racontait des blagues qui souvent allaient fort loin.
De cette forme d'esprit très particulier qu'évoque Blaise Sandrard, voici trois témoignages dans les mélodies qui vont suivre. Il s'agit de Daphénéo et la statue de bronze chantée par Jeanne Bathory avec au piano Darius Milhaud.
Daphénéo. Dis-moi, Daphénéo, quel est donc cet arbre dont les fruits sont des oiseaux qui pleurent? Cet arbre, chrysalide, est un oisetier. Oh, je croyais que les noisettes qui connaissent les noisettes, Daphénéo.
N'avez-vous pas connu à l'époque une chanteuse pour qui Satie commettait des œuvres d'une saveur bien différente? Elle triomphait au café-concert et s'appelait Paulette Darty avec la particule, s'il vous plaît.
Oui, j'ai rencontré Paulette Darty assez souvent, mais pas chez cette amie où nous mangeions la bouillabaisse, au contraire, chez une grande dame, fort riche, qui avait beaucoup, beaucoup d'amitié pour Paulette Darty, et qui, pour lui faire plaisir, a un jour invité Satie Ils ne s'étaient pas vus depuis une vingtaine d'années, ils étaient perdus de vue. Et Satie, ému et bouleversé, s'est mis au piano et a joué les deux valses et la valse chaloupée et une chanson dont j'oublie le titre, qu'il avait composée autrefois, 20 ou 30 ans auparavant, pour Paulette Darté, qui était une femme bien sympathique, un peu forte quand je l'ai connue, un peu mûre, qui avait pris la bouteille, mais qui avait un rire divin, un rire allemand extraordinairement jeune. Puis elle a chanté, et puis Satie l'a prise sur ses genoux, et ils ont joué à quatre mains un morceau au piano, qu'ils ont dû improviser, je suppose.
L'humour chez Satie allait jusqu'à intituler certaines de ses compositions « Morceaux en forme de poire », ce qui était pour dérouter plus d'un. De cet humour, pouvez-vous, Blaise Cendrars, nous donner une illustration ?
L'humour de Satie était souvent féroce. Ainsi, un garçon qui a débuté de la vie avec lui, Monsieur de la Condamine, me raconta que partageant la chambre de Satie à Montmartre et possédant à eux deux une seule paire de pantalons, que Monsieur de la Condamine revêtait pour sortir en ville dans la journée, et que Satie lui réclamait le soir pour aller tenir le piano au Chat Noir, il arrivait que pour rire, Satie ne rentrait pas. Elle laissait ce pauvre monsieur de la Condamine attendre jusqu'à 9h, 10h, 11h, midi, rater l'heure du bureau, être mis à la porte, ce qui lui causait des quantités d'ennuis. Elle n'était pas faite pour simplifier leur vie.
Car Satie en fut réduit pendant quelque temps à tenir le piano dans les boîtes comme le Chat Noir.
Satie a tenu le piano au Chat Noir. Oui, Satie a connu la grande pauvreté jusqu'à la fin de ses jours, je crois.
Eh bien, le piano, cette fois, est tenu par Georges Auric, que vous avez rencontré, Blaise Cendrars, auprès d'Éric Satie. Avec Georges Auric, car c'est un piano à quatre mains, Francis Poulenc, il joue deux morceaux en forme de poire.
Thank you.
Assistiez-vous à cette première et fameuse représentation de Parade qui, unissant d'aussi dissemblables tempéraments que ceux de Picasso, de Satie et de Cocteau, fit un scandale désormais légendaire et dont ses auteurs, qu'il l'ait voulu ou non, ont tiré le plus grand profit?
Bien sûr, j'y étais. J'ai été à peu près toutes les répétitions. C'est vous dire que je n'en ai pas manqué, ni la générale, ni la première. Le scandale fut assez vif, surtout, dans le public des loges. Mais le plus scandalisé de tous était Eric Satie, qui n'en revenait pas d'entendre le tapotement d'une machine à écrire qui ne figurait pas parmi les instruments de son orchestre, et au sujet de laquelle il s'était chamaillé durant toutes les répétitions avec Cocteau, qui, lui, tenait absolument à avoir non seulement une machine à écrire, mais toute une batterie de machines à écrire. Et à la fin des fins, Diaghilev lui a trouvé un instrument qui n'avait rien de commun avec la machine à écrire, sauf qu'il amplifiait le son d'une machine à écrire, et ce qui étouffait un peu, par moment, la belle musique de Satie.
Est-ce que la présentation de ce ballet et le scandale qu'il causa apporta quelque chose à la gloire de Satie?
Oui, sûrement, parce que jusqu'à ce moment-là, Satie était presque l'inconnu qu'il est redevenu depuis sa mort. Il n'y a qu'en Amérique où réellement on le joue plus que jamais actuellement. Il est rare d'entendre du Satie en France.
Il y a d'ailleurs une réflexion de Satie qui s'applique parfaitement à ce scandale volontaire. Il écrit quelque part « Je suis tout à fait de l'avis de nos adversaires. Il est regrettable de voir des artistes user de la réclame. » Mais il ajoute « Pourtant, Beethoven n'a pas été maladroit dans sa publicité. C'est elle qui l'a fait connaître, je crois. »
C'est bien l'esprit de Satie. Mais à cette époque-là, il était outré également de voir que Paris était recouvert d'affiches annonçant Parade, ballet de Jean Cocteau, et où son nom de musicien ne figurait pas.
Eh bien, de Parade, voici une version sans machine à écrire avec au piano Georges Auric et Francis Poulenc. Vous entendrez successivement le prélude du Rideau Rouge, le prestidigitateur chinois, la petite fille américaine, le ragtime du bateau, les acrobates et enfin la suite au prélude du Rideau Rouge.
Thank you.
qu'est-ce qui, chez un musicien comme Satie, ou plutôt chez l'homme Satie, vous attirez, vous, Blaise Cendrars, dont le tempérament est si dissemblable, semble-t-il, du sien?
Ce qui m'attirait chez Satie, c'était l'homme de banlieue qu'il était. Satie vivait à banlieue. Satie était communiste à une époque où personne ne l'était. Satie était le chef de l'Orphéon d'Arcueil-Cachan. Satie a composé de la musique pour les enfants des écoles d'Arcueil-Cachan. Satie était un grand timide. Satie sortait avec son parapluie et venait à pied tous les jours jusqu'à Paris, ou plutôt toutes les nuits, et rentrait au petit jour à Arcueil-Cachan chez lui, où de son vivant, personne n'a pu pénétrer. Au lendemain de sa mort, lorsqu'enfin on put ouvrir la porte de Satie et voir son intérieur, il paraît que c'était quelque chose d'innommable, d'indescriptible, un désordre fou, un véritable infernum. Madame Braque, la Marcel Braque, la femme de Georges Braque, qui a acheté les deux pianos de Satie, m'a raconté que venant le lendemain avec les déménageurs pour emporter ces deux pianos, ils trouvèrent des centaines de faux cols entre les pianos droits et le mur. Des faux cols que Satie avait portés et qu'il avait jetés derrière ses instruments de musique. Ce qui me rappelle qu'à un moment donné, vers 1925, si je ne me trompe pas, j'avais fait obtenir à Satie une commande pour les ballets suédois. Les ballets suédois partaient en tournée aux États-Unis. Rolf de Maré, leur directeur, n'avait pas le temps de signer immédiatement un chèque qui s'était mis d'accord, Satie et lui, sur le seuil du théâtre, du Grand Théâtre des Champs-Élysées. Et, en prenant congé, Rolf avait dit à Eric, « Écoute, mon vieux, t'en fais pas, je t'envoie un chèque du Havre, tu le recevras demain matin, après-demain matin. » Et durant 2-3 jours, 3 fois par jour, la visite de Satie, qui venait d'Arcueil-Cachan jusqu'au Batignolles où j'habitais à l'époque, pour se plaindre et me dire qu'il n'avait toujours pas reçu ce fameux chèque. Que les Suédois étaient des cornichons, en fait, parfois très violents dans ses expressions. Et un beau jour, le 4e ou le 5e jour, Satie arriva vers les 7 heures du matin chez moi, brandissant le chèque de Rolf de Maré, chèque qui n'avait pas été mis à la poste au Havre, mais au Southampton. Ce chèque était tiré sur la banque de Rolf de Maré, une banque suédoise, assise dans le haut de l'avenue Georges V, occupant un petit hôtel particulier, dans un grand jardin. Et Satie se mit à gueuler et à protester, comme il seul savait le faire, traitant les Suédois de cornichons et craignant qu'on ne le payât pas, en disant, mais enfin, c'est pas une banque, on n'a pas idée de mettre une banque dans un grand jardin, on n'a pas idée de mettre une banque dans un petit hôtel particulier, mais il n'y a que les Suédois pour avoir des idées pareilles, ils sont complètement faux. Et pour le tranquilliser, je lui dis, écoute, mon vieux, présente ton chèque, et tu vas être payé instantanément, ce qui arriva. Et une fois sorti dans la rue, je me rendis compte de la responsabilité que j'avais assumée en conduisant Eric Satie dans cette banque suédoise. Il s'agissait pour moi de le ramener avec tout son fric en poche jusqu'à Arcueil-Cachan. Alors, je lui fis prendre la rue François Ier, où il n'y avait pas de bistrot à l'époque. Nous arrivâmes sains et saufs jusqu'au tabac qui fait le coin derrière le Grand Palais, avenue Emmanuel III, où, bien sûr, Satie s'acheta 2-3 paquets de ces mauvais cigares qu'il était coutumier, dont il était coutumier, et qu'il appelait des crapulos. Puis, on s'envoya de trois demi. Puis, je lui fis descendre les Champs-Élysées, mais par les bosquets, parce qu'il n'y a pas de bistrot dans les bosquets. Je lui fis traverser la place de la Concorde, parce qu'il n'y a pas de bistrot place de la Concorde. Le jardin des Tuileries, la cour du Louvre, les quais, à partir du pont des Arts jusqu'au Châtelet. Au Châtelet, malheureusement, il y avait la brasserie du Châtelet où Satie, depuis toujours, chaque fois qu'il était enfant, allait manger une vieille choucroute. On ne pouvait pas faire autrement. Nous sommes donc installés, nous avons mangé une vieille choucroute. Il était 11h15 à peu près. Nous avons bu de nombreux demi. Nous avons fumé de ces mauvais crapulos qu'il adorait tant. Et pendant ce temps-là, je me disais, le coup dur, ça va être la remontée du boulevard Saint-Michel. Comment faire? Enfin, on traversa la cité sans encombrement, la place Saint-Michel sans s'arrêter nulle part, quand tout à coup, avant de traverser le boulevard Saint-Germain, Satie bondit, traversa le boulevard et s'enfourna chez un chemisier en face. Et alors, quand je l'ai rejoint, il me dit, tu comprends, mon vieux, pour une fois que je puis me payer des faux cols, je vais me payer des faux cols. C'est la seule boutique de Paris qui vend des faux cols que je porte. Il avait des espèces de faux cols, mon Dieu, qui n'avaient rien d'extraordinaire. C'était légèrement démodé, dont le bout était cassé, mais qui me paraissait semblable à des milliers de faux cols cassés. Et il se paya 12 douzaines de faux cols. 12 douzaines de faux cols, une grosse, puis nous sortîmes de la boutique. Et Satie était si enchanté de son emplette qu'il ne songea même pas à s'arrêter dans un bistrot en remontant tout le boulmiche jusqu'à la gare du Luxembourg, où je pris congé de lui, l'ayant mis dans son train qui le ramenait à Arcueil-Cachan, où bien entendu, je ne pouvais pas l'accompagner puisque, je le répète, de son vivant, jamais personne n'a pu pénétrer chez Eric Satie.
Vous nous avez confié tout à l'heure qu'un ami retour d'Amérique vous annonçait récemment qu'Eric Satie était aux États-Unis le compositeur français le plus connu. Avez-vous eu d'autres témoignages dans vos voyages de cette gloire étrangère de Satie?
Non, je n'ai pas eu de témoignages de cette gloire étrangère de Satie. Mais son succès américain ne m'étonne pas parce que Satie lui-même, il y a 30 ans, m'a raconté qu'il vivait du sou du franc qu'il touchait, comme droit d'auteur, sur, justement, ses valses et ses chansons qu'il avait composées pour le Chat Noir, et qu'on nous jouait dans le monde entier, surtout à bord des bateaux. Et il n'en venait pas. Alors, j'ai pu entendre la musique de Satie, à l'époque, à bord des bateaux, sans savoir qu'elle était de Satie.
Série Les affinités électives, Blaise Sandrard avait choisi de présenter Eric Satie. Cette émission était illustrée d'enregistrements de Jeanne Bathory, Pierre Bernac, Agnès Capri, Georges Horry, Francis Poulain et de l'Orchestre Philharmonique de Philadelphie dans la direction de Léopold Stokowski. Réalisé avec la collaboration de Raymond Folle, c'est une production de Georges Baume.
C'était une émission diffusée la première fois le 3 juillet 1950.